Chers amis, en ce temps pascal, nous continuons à nous laisser irradier par la lumière du Christ ressuscité. Je lisais il y a quelques jours cette belle prière d'intercession dans les Laudes. Père des Lumières, tu éclaires le monde par la splendeur du Christ ressuscitant dans la gloire. Fais resplendir aujourd'hui dans nos âmes la lumière de la foi. Nous sommes bien là dans l'atmosphère de Pâques, qui est l'anticipation de l'atmosphère du ciel, où de nuit il n'y en aura plus, comme nous le dit l'Apocalypse, parce que précisément tout sera transfiguré dans la lumière de Dieu. Cette préfiguration liturgique du monde transfiguré, qui nous donne tant de joie et d'espérance, se heurte cependant à la réalité de ce monde tel qu'il est, et de l'histoire de l'humanité, qui n'est pas encore pleinement dans la lumière, mais qui se situe entre les ténèbres et la lumière. Jésus s'est présenté comme la lumière du monde, mais de ce fait, il a aussi mis en évidence les ténèbres, comme il le dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Ici, nous passons du plan métaphysique, si je puis dire, le plan métaphysique, c'est Dieu qui est lumière, Jésus qui est lumière, au plan moral. La lumière qualifie le domaine de Dieu et du Christ comme étant celui du bien et de la justice, alors que les ténèbres qualifient le domaine de Satan comme étant celui du mal, du péché et de l'impiété. Alors bien sûr, pour tromper les hommes, Satan se déguise parfois en ange de lumière, comme nous dit saint Paul, pour séduire et perdre les hommes. Mais la prière et l'humilité permettent de déjouer ces tromperies, de le démasquer, et de faire apparaître cette lumière de Satan pour ce qu'elle est, une fausse lumière, une lumière qui cache les ténèbres. Saint Paul nous exhorte donc à choisir la voie de la lumière et à rejeter celle des ténèbres. Il nous invite surtout à ne pas être dans une compromission, un entre-deux qui peut certes être confortable, parce que nous ne prenons pas trop de risques, nous suivons l'esprit du monde, nous ne nous démarquons pas, nous ne tranchons pas. Mais alors le résultat, c'est que nous devenons tièdes. Or, nous savons que Jésus vomit les tièdes, comme il l'a dit à saint Jean dans l'Apocalypse. Et donc, c'est pour nous éviter d'être vomis par la bouche du Christ que saint Paul nous exhorte. « Ne formez pas d'attelage mal assorti avec des non-croyants, nous dit-il. Quel point commun peut-il y avoir entre la condition du juste et l'impiété? Quelle communion de la lumière avec les ténèbres? Quel accord du Christ avec Satan? Quelle entente y a-t-il entre le sanctuaire de Dieu et les idoles? Sortez donc du milieu de ces gens-là et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. » Il y a donc un choix à faire qui peut être douloureux, bien sûr, mais qui est nécessaire si nous ne voulons pas demeurer dans une zone grise, ou pire, dans les ténèbres. Il nous faut choisir résolument la lumière, c'est-à-dire le monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est le monde du bien et non celui du mal. C'est le monde de la justice et non celui de l'injustice. C'est le monde de la vérité et non celui du mensonge. C'est le monde de la foi et non celui de l'impiété ou de l'adoration des idoles. Il s'agit pour nous de nous séparer de ceux qui font le mal afin de n'être pas en communion avec leurs œuvres mauvaises, et donc avec les ténèbres. Souvenons-nous que notre vocation, la vocation de tout homme avec la grâce de Dieu, c'est de devenir lumière dans le Seigneur, c'est d'être rendu participant de la vie divine. Or la vie de Dieu est une vie pleine de lumière, puisque Dieu est lumière. Depuis le commencement de l'humanité, depuis le péché d'Adam et d'Ève, l'homme se trouve pris entre les deux, entre les ténèbres et la lumière. Et il lui faut donc choisir de sorte qu'il devienne soit fils des ténèbres, soit fils de lumière. Jésus lui-même utilise cette manière de parler pour nous faire comprendre la guerre eschatologique dans laquelle nous sommes plongés. Il distingue dans la parabole le monde présent du royaume qu'il est venu inaugurer. Dans cette parabole, il est question d'un homme riche qui avait un intendant et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Vous vous souvenez de l'histoire, il le fait appeler en lui demandant de rendre compte de sa gestion. Et celui-ci, voyant qu'il est incapable de travailler la terre ou de mendier, s'arrange avec les débiteurs de son maître pour s'assurer un avenir et l'amitié des débiteurs, en leur faisant payer moins que ce qu'ils devraient. Et Jésus termine la parabole en disant « Le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. » Il y a bien une séparation. Ce partage entre les ténèbres et la lumière, s'il passe dans le monde, entre les hommes, passe aussi au cœur de chacun de nous. Car de même que les fils de ce monde, ou fils des ténèbres, et les fils de la lumière renés en Christ, se mélangent durant le temps de ce monde, comme l'ivraie le bon grain, de même nous avons chacun personnellement à passer des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Nos cœurs ne sont malheureusement pas irradiés par la lumière de Dieu, comme le fut celui de la Vierge Marie, qui était l'Immaculée Conception. Nous, nous avons été marqués par le péché. Nous sommes fragiles et faibles. Et donc le péché continue d'habiter nos cœurs. Et ne nous faisons pas d'illusions. Ce combat contre le péché qui nous obscurcit durera jusqu'à notre mort. C'est petit à petit que la lumière de Dieu illuminera nos cœurs et en chassera les ténèbres, de telle sorte que nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous devenions de plus en plus à sa ressemblance, habités par sa bonté, habités par son amour. Car c'est l'amour qui illumine les cœurs et suscite un comportement de bonté et de justice, suscite la sainteté même de Dieu en nous. Dans les écrits de l'Église primitive, il y a l'épître de Barnabé. Cette épître n'a pas été écrite par Barnabé, le compagnon de Paul. On suppose qu'elle a été écrite après l'an 130. Cependant, ce texte a toujours été connu dans l'Antiquité. Il a connu même une certaine gloire. Clément d'Alexandrie et Origène lui prêtaient une autorité canonique. Ensuite, Eusèbe et Jérôme le rejetèrent comme apocryphe. Et de fait, il n'est pas dans le canon des Écritures. Mais il reflète bien la catéchèse apostolique. Et il est très proche de ce qu'on trouve aussi dans la Didaché, qui est une catéchèse morale très connue de l'Antiquité. Cette épître nous présente donc le choix moral entre ces deux voies. Et voici ce que l'auteur nous dit. Il existe deux voies, relevant d'une doctrine et d'une autorité, celle de la lumière et celle des ténèbres. Sur l'une sont postés les anges de Dieu, porteurs de lumière, sur l'autre les anges de Satan. Ici, le Seigneur depuis les siècles et pour les siècles. Là, le prince de ce temps d'iniquité. Et l'auteur nous présente ensuite la voie de la lumière. Voici la voie de la lumière. Que celui qui entend y cheminer jusqu'au but assigné s'applique à sa tâche. Telle est la connaissance qui nous a été donnée pour nous diriger dans cette voie. Tu aimeras celui qui t'a créé. Tu glorifieras celui qui t'a racheté de la mort. Tu seras simple de cœur et riche d'esprit. Tu ne frayeras pas avec ceux qui foulent le chemin de la mort. Tu haïras tout ce qui déplaît à Dieu. Tu détesteras toute hypocrisie. Tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur. Tu ne te rengorgeras pas, mais tu seras humble toujours. Tu ne tireras gloire de rien. Tu ne trameras pas de mauvais desseins contre ton prochain. Tu ne permettras pas à ton âme l'insolence. Tu fuiras la débauche et l'adultère. Tu ne corrompras pas l'enfance. Tu resteras doux et paisible. Tu ne garderas pas rancune à ton frère. Tu ne t'interrogeras pas sur ce que demain réserve. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur. Tu aimeras ton prochain plus que ta vie. Tu ne pratiqueras pas l'avortement et tu ne feras pas mourir le nouveau-né. Je fais juste une parenthèse, mais vous voyez qu'au IIe siècle, la voie de la lumière rappelait cette vérité morale que nos sociétés ont oubliée et qui fait qu'elle glisse vers les ténèbres sous la conduite de Satan aujourd'hui. Je poursuis. Tu enseigneras à ton fils ou à ta fille dès l'enfance la crainte de Dieu. Ne convoite pas les biens de ton prochain. Ne sois pas cupide. Ne te lie pas de cœur avec les orgueilleux, mais recherche l'amitié des justes et des humbles. Tu accueilleras les événements de ta vie comme des bienfaits, en sachant que rien n'arrive en dehors de Dieu. Tu ne seras pas fourbe en pensée ou parole. La duplicité du langage est un piège mortel. Tu obéiras à tes supérieurs comme à une figure de Dieu avec crainte et respect. Tu partageras tout avec ton prochain, sans te flatter de posséder des choses. Car si vous mettez en commun les biens incorruptibles, combien plus le devez-vous des biens périssables? Tu ne seras pas bavard. La langue est un piège de mort. Autant que tu le peux, tu te garderas pur pour le bien de ton âme. Ne tiens pas tes mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. Tu aimeras comme la prunelle de tes yeux quiconque t'annonce la parole du Seigneur. Nuit et jour, tu te souviendras du jour du Seigneur. Tu auras perpétuellement le souci, soit d'œuvrer par la parole, allant porter au loin l'exhortation ou te consacrant aux soins d'une âme, soit de travailler de tes mains au rachat de tes péchés. Jusqu'à la fin, tu haïras le mal. Tu jugeras avec équité. Tu ne créeras pas la division, mais tu rétabliras la paix en réconciliant les adversaires. Tu feras l'aveu de tes fautes. Tu n'iras pas à la prière la conscience mauvaise. Nous avons là, d'une certaine manière, la quintessence des Écritures et notamment de l'Évangile. Ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse. Et vivre de cet amour prévenant qui prend soin de l'autre. Et puis surtout, demeurer dans cette attitude humble devant Dieu, avec un cœur purifié, priant, louant et glorifiant Dieu. Celui qui agit ainsi a de fait choisi le chemin de la lumière et laisse l'Esprit de Dieu habiter en lui. Il laisse la lumière divine illuminer son cœur et son esprit et transfigurer sa vie. Jésus n'a-t-il pas dit « Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». Une vie belle et bonne, vécue sous l'inspiration de l'Esprit du Christ, est de fait évangélisatrice, même sans parole. Jésus, en effet, ne parle pas ici d'une annonce directe et explicite de sa doctrine qui s'adresserait à l'oreille. Il parle des actes. « Voyant ce que vous faites de bien », dit-il. C'est une évangélisation qui passe par les yeux. Tout comme Jésus, après son baptême, a été interpellé par Pierre et Jean, « Seigneur, où demeures-tu ? » Et Jésus leur répond, « Venez et voyez. » Autrement dit, « Vous comprendrez ce que je suis en voyant ce que je fais, pas seulement en entendant ce que je dis. » Combien de personnes qui se sont converties dans les premiers siècles du christianisme en voyant les chrétiens mourir martyrs ? La petite sainte Blandine de Lyon n'a jamais évangélisé par des discours. Elle n'a su que dire « Je suis chrétienne, nous ne faisons rien de mal ». Mais les païens ont vu sa constance, elle qui n'était qu'une petite esclave. Ils ont vu que par fidélité au Christ, elle a accepté d'endurer de si grandes tortures. D'abord livrée aux bêtes, puis celle-ci refusant de la toucher, elle a ensuite été flagellée, puis placée sur un grill brûlant, puis livrée dans un filet à un taureau qui la jeta en l'air avec ses cornes, et enfin égorgée par le bourreau. Nous avons là un témoignage extrême sans doute, auquel nous ne sommes pas tous appelés évidemment. Mais il nous appartient à tous d'agir bien pour que notre lumière, qui est en fait celle du Christ en nous, brille devant les hommes, et que les hommes, devant le témoignage de notre foi et de notre amour, se tournent vers Dieu et lui rendent gloire. Nous pouvons sans même nous en rendre compte, par un simple sourire, par une parole de gentillesse et de bonté, par un pardon donné, par un service rendu, refléter quelque chose du mystère du Christ. Ne perdons pas ces toutes petites occasions dans le présent de notre vie où nous pouvons repousser les ténèbres de notre monde par des petits gestes pétris de lumière. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais en retard pour la messe et je courais dans la rue pour ne pas manquer le bus. Or, je le vois qui passe dans la rue perpendiculaire à la mienne et je me dis « Oh, c'est foutu !» Eh bien, à mon grand étonnement, le conducteur m'a vu de loin. Et alors qu'il n'y avait personne à cet arrêt, ni pour descendre, ni pour monter, il s'est pourtant arrêté, a fait ouvrir la porte de derrière et a attendu que j'arrive. Ce simple petit geste de gentillesse m'a rempli de gratitude pour toute la journée. Et j'ai demandé au Seigneur de bénir abondamment cet homme, car par ce simple geste, il a illuminé ma journée. D'une certaine façon, il a été canal de la lumière de Dieu par son geste de bonté. L'auteur de l'Épître à Barnabé, après avoir évoqué la voix de la lumière, évoque la voix des ténèbres, et voici ce qu'il en dit. « La voix du noir est tortueuse et jonchée de malédictions. Elle est la voix d'une mort et d'un châtiment éternel. Tout ce qui peut ruiner une vie s'y presse. Idolâtrie, arrogance, orgueil du pouvoir, hypocrisie, fourberie, adultère, meurtre, vol, vanité, désobéissance, fraude, malice, jactance, sorcellerie, magie, cupidité, mépris de Dieu. » Et ensuite, voici comment il caractérise ceux qui marchent dans cette voie. « Adversaire des justes, ennemi de la vérité, complice du mensonge, ignorant le salaire de la justice et n'étant attaché ni au bien ni au jugement équitable, indifférent à la veuve et à l'orphelin, vigilant non pour la crainte de Dieu, mais pour le mal, totalement étranger à la douceur et à la patience, amoureux de la vanité, coureur de récompenses, sans pitié pour le pauvre ni compassion pour l'affligé, habile à la calomnie, oublieux de leur créateur, meurtrier d'enfants et détruisant par l'avortement la créature de Dieu, sans souci de l'indigent, dur avec l'opprimé, avocat des riches, juges iniques des pauvres, pécheurs universels. » Voilà donc le portrait bien sombre, ténébreux de fait, que l'auteur nous présente de ceux qui suivent la voie du prince de ce monde. Notre humanité n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans et même depuis toujours, n'est-ce pas? Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, les exhortait afin qu'ils fuient tous ceux qui suivent ce chemin ténébreux. « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, leur disait-il. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. » Saint Paul nous montre bien là un cheminement, une dynamique et même une Pâque. Ce qui est ténébreux doit être rendu manifeste, doit être démasqué et donc ainsi venir à la lumière. Or, il faut bien voir que par naissance, tous les hommes appartiennent de fait au domaine des ténèbres, puisque tous sont marqués de la blessure du péché originel et donc d'une propension à choisir le mal, ou tout au moins d'une vulnérabilité aux séductions du diable ou de la chair. C'est le Seigneur et le Seigneur seul qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, comme le disait si bien Pierre dans sa première lettre. C'est le Seigneur qui a pris l'initiative de notre délivrance. C'est lui qui nous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière, pour reprendre la parole de saint Paul aux Colossiens. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Cette grâce décisive, nous l'expérimentons lors du baptême puisque dans ce sacrement, saint Paul décrit ce qui se passe par cette parole. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Cette manière de parler du baptême comme d'une illumination, nous la retrouvons aussi dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur parle des baptisés comme, je le cite, « ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de l'Esprit-Saint, qui ont goûté la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir. » Cette illumination des baptisés vient de la grâce, c'est-à-dire de la puissance du Saint-Esprit qui vient opérer toute chose nouvelle en nous, qui nous fait devenir enfants de Dieu, en infusant en nous les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Cette transformation n'est pas un vernis extérieur, une amélioration superficielle. Elle est un changement profond à l'intérieur de nos cœurs, une sorte de recréation dans la grâce. Et saint Paul le laisse entendre quand, s'adressant aux nouveaux baptisés qui ont quitté le paganisme, il leur dit « Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. » Voyez la radicalité de l'expression. Il ne leur dit pas « Vous commettiez des choses ténébreuses, des actes mauvais », mais « Vous étiez ténèbres, dans votre être même ». Et la grande transformation, c'est que, ontologiquement, au niveau de son être, le baptisé devient lumière. Vous êtes désormais lumière dans le Seigneur. Non que nous puissions devenir lumière par nous-mêmes, nous devenons lumière par notre participation à la lumière de Dieu, par notre accueil de la Trinité Sainte en nos cœurs. Et la conséquence de ceci, selon ce que saint Thomas d'Aquin rappelle toujours, à savoir que l'agir suit l'être, eh bien, c'est que nous devons vivre désormais en fils de lumière. La transformation de notre être nous oblige quelque part. Cette transformation, cette illumination détermine pour nous une ligne de conduite nouvelle. Nous ne pouvons plus poser des actes qui appartiennent au royaume des ténèbres, alors que nous avons été transférés dans le royaume de la lumière et que nous sommes devenus lumière dans le Christ. La vie des fils de lumière ne peut être comme celle des fils des ténèbres. Il doit y avoir une différence et cela doit se voir. Ce serait humilier le Christ qui vit en nous que de continuer à agir comme nous agissions avant l'illumination reçue au baptême, en continuant à produire des œuvres mauvaises. Cela est valable pour les nouveaux baptisés, mais cela est aussi valable pour nous qui avons peut-être été baptisés dans l'enfance. Chacun doit veiller à ne pas laisser s'obscurcir sa lumière intérieure. C'est un appel à la vigilance. Nous péchons bien souvent par oubli de notre grande dignité. Saint Léon le Grand, dans une homélie pour Noël, exhortait les chrétiens en leur disant « Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon. Car tu as été racheté par le sang du Christ. » Saint Paul, de la même manière, nous faisait cette recommandation dans sa lettre aux Romains. « Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Point de ripaille ni d'orgie, pas de luxure ni de débauche, pas de querelle ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voyez comme toute la morale découle de cette transformation ontologique de notre être par le baptême. Et n'inversons pas les choses. N'allons pas croire qu'il faudrait d'abord être bien, faire le bien, pour un jour mériter l'illumination, la vie dans l'esprit. Ce serait une forme de pélagianisme, cette hérésie qui prétendait que nous n'aurions pas besoin de la grâce de Dieu pour devenir saints et pour agir de belles manières, mais que nous pourrions le faire par nos propres forces. Bien au contraire, c'est la grâce de Dieu qui est première, qui nous transforme, qui nous rend capables d'agir selon ce que nous sommes devenus, lumière dans le Christ, et donc qui nous rend capables de poser des actes lumineux, des actes pétris de l'amour de Dieu. La morale, la vie bonne, n'est rien d'autre que la conséquence, le fruit de l'illumination. Et le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon et vrai et juste, et qui s'oppose aux œuvres stériles des ténèbres, c'est-à-dire les péchés. Jean ne parle pas autrement quand il nous invite lui aussi à marcher dans la lumière pour être en communion avec le Dieu qui est lumière. Et le critère d'une vie dans la lumière, pour lui, c'est l'amour fraternel. Les ténèbres s'en vont et la véritable lumière brille déjà, dit-il. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous voyons bien ici le lien intime entre lumière et amour, et entre ténèbres et haine. Dieu est amour, nous dit saint Jean, mais il nous dit aussi Dieu est lumière. Et la lumière est comme le reflet de l'amour, son rayonnement. Ainsi, celui qui vit dans l'amour, en vrai fils de lumière, fait rayonner parmi les hommes la lumière divine dont il est devenu dépositaire. Et en devenant dépositaire de cette lumière, il devient à son tour la lumière du monde, à l'image et ressemblance du Christ. En effet, Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde » lors de son sermon sur la montagne? Et quand il les envoie ensuite pour évangéliser, c'est précisément pour apporter la lumière au monde et en chasser les ténèbres. La mission du chrétien est donc une mission d'illumination. Il me semble que dans notre monde devenu tellement ténébreux, il y a un besoin urgent que se lèvent les chrétiens, qu'ils sortent de leur cachette pour apporter la lumière du Christ ressuscité. Nous avons une grande responsabilité. Soit nous laissons la lumière du Christ sous le boisseau, et alors le monde continuera à s'enténébrer, soit nous devenons ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes devenus par le baptême. Des porte-Christ, des porte-lumière, des théophores, comme la tradition orthodoxe les appelle. Et alors la lumière continuera à briller pour annoncer contre toute espérance l'aube eschatologique que nous attendons tous.